Bonjour, alors je vais tester cet outil de podcast qui est Encore. Voilà, comme le séminaire de Lacan Encore ou la chanson de Jean-Jacques Goldman Encore un matin. Donc du coup je vais un peu copier ce qu'a fait Zora, donc en faisant voilà des podcasts sans forcément préparer puisque je fais tout en impro. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de psycho, je dis volontairement psycho, et arts martiaux, avant de distinguer avec la psychanalyse. Donc du coup, si je prends cette forme, c'est aussi pour dire les choses de façon plus coulée et des sujets peut-être qui seraient pas très intéressants à l'écrit. Pour qu'il y ait aussi une sorte de lâcher prise un peu dans la parole comme ça dite libre même si elle n'est pas libre mais bon ça je pense que la plupart des gens qui pourraient potentiellement écouter ce podcast sont déjà au courant pourquoi les arts martiaux et la psycho déjà parce que en fait il y a pas mal de liens beaucoup même. Le premier, je vais peut-être commencer par le plus évident, c'est que ce sont deux pratiques où le psychique, la psychologie, ce qu'on est, joue énormément. Souvent, si vous regardez des combats, soit des sports de combat, ou même des arts martiaux traditionnels, on vous parle, on peut le trouver aussi dans les sports, ça, dans toute forme de compète d'ailleurs, on peut trouver ce qu'on appelle le mind game, qui est un peu comment on utilise la pression psychologique, la manipulation des émotions, pour arriver à ses fins. Alors souvent, c'est une dimension qui est souvent énoncée, les gens ne sont pas étonnés, mais elle est très souvent pas si prise en compte et si analysée que ça. Je n'ai pas une grande non plus expérience des combats à un contre un, mais elle est vraiment très très importante. Et qu'on commence un peu à comprendre les mécaniques d'une technique de combat. On perçoit très très vite qui a l'ascendant psychologique. Parce que, en fait, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est un espace de vérité, en fait. C'est le corps qui parle, c'est les émotions qui viennent. Faut pas être débordé par ces émotions, mais elles sont quand même à la source d'une attaque, pour donner la pleine puissance. Même s'il faut, on va dire, être calme, maîtriser, ne pas être stressé, ne pas avoir le corps raide, l'avoir souple, il y a quand même quelque chose d'une rage qui est au fond, mais qui est une rage, on va dire, canalisée. Donc c'est un peu un jeu comme ça entre une vérité, une émotion, quelque chose du corps et une maîtrise. Et dans l'aspect de l'affrontement, il faut essayer d'être capable d'être poker face, de cacher ses émotions ou de faire croire. Il faut comprendre ce que l'autre ressent ou pense et comment l'amener vers là où on veut aller. Ça ressemble presque à un combat de mots et d'argumentation, mais c'est très très proche. Je vais donner un exemple. Avec moi, parce que c'est le plus simple, enfin celui que je connais le mieux, enfin je crois. Par exemple, moi je suis petit, je fais 1,60 m. Et donc du coup, face à des adversaires plus grands, je devrais, pour gagner, donc soit rentrer dans une garde, donc avec une certaine vitesse, une capacité, une capacité, on va dire, de passer dans des trous. C'est là où on retrouve le parallèle avec la psychanalyse et la sexualité. Cette capacité-là, mais elle peut être compliquée passé un certain âge parce que ça demande, on va dire, une certaine capacité physique d'explosion. Ça peut être très musculaire. L'autre possibilité, c'est d'amener l'autre vers soi, le provoquer pour qu'il attaque et attaquer pendant qu'il attaque, en fait. Comme ça, la distance est en partie faite par l'autre. Et si on gère bien son contre, il se fait attaquer alors que dans son esprit, j'attaque. Donc, se faire attaquer alors qu'on est en j'attaque, qu'on est concentré sur le j'attaque, bah, ça peut, voilà, ça peut créer une sorte de troubles cognitifs un peu, genre j'attaque, ah non, on m'attaque. Et ça, c'est très efficace. Ça, c'est théorique, hein. Parce que faut être très malin, parce que l'autre en face n'est pas forcément idiot, n'est pas forcément... Il peut être plus expérimenté, plus fort que soi, plus grand, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Et du coup, il faut être capable de voir ce par quoi on peut l'énerver pour qui... En fait, on fait croire qu'il prend l'initiative, mais c'est nous qui prenons l'initiative, en fait. C'est quelque chose qu'on trouve dans le traité des cinq roues de Musashi, où c'est l'initiative dans l'initiative. Donc, il faut être capable, voilà, de savoir sur quoi on va l'amener. Et l'autre, il va pas forcément se laisser faire psychologiquement. En fait, il faut comprendre que dans tout ce qui est sport de combat, arts martiaux, le combat est psychologique et le combat du corps est contre sa propre fatigue, est contre ses propres peurs, est contre ses propres difficultés. C'est exactement la même chose. C'est uni, c'est pas séparé. On peut pas fragmenter. Alors, quand on commente par exemple un match, on fragmente les choses pour que les gens comprennent, mais fondamentalement, c'est la même chose. Et l'autre chose l'autre aspect aussi qui peut être pris et qui est un peu différent de ce que je dis là, c'est que, bon, je vais peut-être le mettre dans un autre segment, c'est peut-être que le rapport du maître ou du sensei ou du coach à son propre élève, enfin, est vraiment un rapport de cernage psychologique. Donc, je vais passer ça dans le deuxième segment. Ouais, donc le sensei, le maître, le coach, comment on peut l'appeler, le sifu. J'aime bien sifu, parce que ça rentre avec le thème de la psychologie. Donc sifu, qui est le terme chinois pour parler du maître. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire littéralement sensei. Je peux juste dire que ce sont deux mots qui veulent dire né premier. Il n'y a pas l'idée de maîtrise forcément. C'est plutôt d'aînesse, donc quelqu'un. Aurait une sorte de sagesse comme ça, parce qu'il est plus vieux, plus expérimenté. Et notamment, c'est très dans les arts martiaux japonais, l'ancienneté est importante. Avant même le grade, notamment, normalement, bon, là je parle pour le kendo, par exemple, on est censé organiser pendant le salut les places des personnes en fonction de leur arrivée sur le dojo ou de leur ancienneté. Dans les faits, il y a quand même il peut avoir quand même un système de grade, mais il y a quand même, voilà, plutôt cette idée que ce qui fait qu'on est maître, c'est un certain rapport au temps qui est important. Et donc, du coup, c'est pas forcément, c'est pour ça, dire maître, c'est pas forcément adapté. C'est un mot qu'on a trouvé en français. Alors que justement, le maître, il est maître en démaîtrise. C'est pas celui qui dans les arts martiaux, et notamment depuis que, on va dire, les arts martiaux inspirés par le taoïsme et le bouddhisme Chan, donc qui est le zen qu'on appelle zen au Japon. Il y a l'idée de non-maîtrise. Comment dire, il y a un terme en chinois qui est wei, wu wei, qui veut dire faire, wei, wu qui est la négation, enfin le non, agir, donc faire le non d'agir. C'est absurde, puisque comment on fait quelque chose c'est faire du non-faire. C'est un peu, voilà, ça se contredit, mais c'est la pensée, la pensée bouddhiste et taoïste. Qui fait que les choses peuvent être contraires parce qu'elles ne le sont pas vraiment. Alors Alors ça, en règle générale, quand on essaye de l'expliquer intellectuellement, ça n'a absolument enfin, c'est très difficile de comprendre. Et justement, ça se comprend super bien dans la pratique. Ça veut dire qu'en fait, toutes les pensées comme ça, ces types de pensées, on va dire asiatiques, elles ne peuvent pas se comprendre intellectuellement. On n'est pas dans le domaine de la compréhension, on est dans le domaine de quelque chose qui se réalise dans la pratique. D'ailleurs, l'éveil en japonais, je crois que c'est Sasori, et qui veut dire la réalisation, c'est-à-dire quelque chose se réalise. Dans le zen japonais, quelque chose qui se réalise, donc un éveil, n'est pas à vie, n'est pas permanent, il peut arriver et repartir. Il y a quelque chose comme ça qui échappe constamment, donc peut-être. Déjà pour certains et certaines, vous voyez déjà des parallèles avec l'inconscient et psychanalyse de ce objet-là, comme ça qui échappe, qui se. Et donc, du coup, le maître est un maître de démaîtrise, on va dire, dans le sens où il acquiert la capacité à faire avec ce qui échappe et qui n'est pas dans je vais tenir, enfin, je vais. Attraper, je vais maîtriser, je vais fixer. Ça, en règle générale, ça fait perdre un combat, par exemple, d'avoir l'esprit fixé. Et c'est un excellent ressort de manipulation pour gagner un combat. La personne qui a les idées fixes, il risque de repartir la queue entre les jambes pour pas faire de jeu de mots avec le chien idées fixes. Voilà, c'est quelque chose qui, comme ça, doit échapper. Alors, moi, l'exemple que je donne pour faire comprendre, parce que des gens connaissent en règle générale cet art martial, c'est l'aïkido où, en fait, on n'utilise pas la résistance pour attaquer, on utilise la force de l'autre, on l'accompagne. Mais c'est un peu comme si on l'absorbait, donc on va dans le sens de la force de l'autre, mais on le maîtrise parce que on maîtrise quand même le flux. Donc c'est un peu ça, un peu c'est un peu l'idée d'aller dans le sens du courant, mais de naviguer dans le sens du courant. Il y a quelque chose de cet ordre et qui est très très vrai dans les arts martiaux où finalement, quand on commence, on veut vraiment, vraiment réussir. On s'ennuie quand on n'y arrive pas. Enfin, ça peut être terrible, hein, les ressentis. Enfin, c'est pas vraiment, comment dire. Faut quand même avoir un mental entre guillemets qui peut supporter l'échec, parce que c'est bon. Après, il y a des gens qui sont très doués, etc. Mais même eux, ils vont au bout d'un moment, parce que j'ai connu des pratiquants, extrêmement doués, mais elles doutaient tout le temps. Parce que elles se rendaient que, bon, peut-être elles y arrivaient mieux sur certaines choses, mais au bout d'un moment, très vite, elles se trouvent face à une limite. Et notamment, souvent les gens qui ont des capacités physiques qui les aident à être meilleurs, on va avoir tendance à être trop compté sur le musculaire et on va avoir beaucoup plus de mal à être dans le non-agir. Pas forcément la technique, parce que la technique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise, hein. On fait les choses comme ça, de telle manière. Il y a des choses assez précises pour y arriver. Donc ça. Comment dire, il y a quelque chose à lâcher pour être fluide et pour être parfaitement synchro. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, par exemple, réussir un mouvement rapide, puissant et qui soit efficace, sans trop dépenser d'énergie et sans se blesser, il faut que le corps soit fluide, il faut pas qu'il y ait de crispation, parce que dès qu'il y a de la crispation, ça désynchronise le corps et du coup, on perd de l'énergie. Donc, c'est pas tant augmenter la force en tant que telle, mais plutôt une capacité à ne pas perdre la force qui part des jambes, puis de la hanche, et qui arrive. Tout ça doit se synchroniser. Et pour se synchroniser, il faut avoir un esprit un peu, voilà, faut avoir l'esprit vide, pas trop fixe, faut pas être trop dans la maîtrise, faut pas compter dans le musculaire, et il y a quelque chose comme ça à abandonner. Et donc le sensei, pourquoi il a cette capacité de cernage psychologique? Le sensei, il n'est pas forcément parfait, il n'est pas forcément celui qui est arrivé complètement, mais il y arrivait au moins un petit peu, suffisamment pour pouvoir le transmettre et dire, ah, je peux aider là-dessus. La capacité de transmission, par exemple, dans des arts martiaux comme le kendo, elle est extrêmement importante à partir d'un certain grade. Par exemple, pour devenir de 8e dan, les 7e dan aspirants et aspirantes doivent être capables de démontrer qu'ils soient reconnus par d'autres et qu'ils sont capables aussi d'enseigner. Il y aura une capacité de pédagogie. Et du coup, ce qui est un truc, bon, c'est un truc assez rigolo, c'est que pour tester la capacité d'enseignement des 7e dan inspirants, 8e dan, on les envoie dans d'autres pays, en France par exemple, parce qu'en France, même si voilà, il y a un niveau sympa en kendo, on n'est pas des professionnels, parce que ce sont souvent des enseignants qui enseignent à des professionnels du kendo. Du coup, ils doivent pouvoir être capables de faire leurs cours adaptés à des gens qui travaillent la journée, qui rentrent, qui n'ont pas fait du kendo depuis petit, qui n'ont pas les conditions physiques d'un athlète, être capables de faire leurs cours. Et ça, c'est très important. Je me souviens, voilà, d'un maître, enfin d'un expert du Japon, qui après le cours nous avait demandé ce qu'il devait améliorer dans son cours. Donc, quand même, le gars, c'est un 7e dan. Il enseigne à des professionnels et il demande voilà, à des amateurs français. Il a cette humilité de dire je sens que mon cours n'était pas assez bon, que j'ai pas réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. À votre avis, qu'est-ce que je dois améliorer? Et moi, je trouvais que bon, c'est un peu ça le maître. On n'est pas dans l'idée du maître, du grand maître. Et il n'est pas forcément, comme on le voit dans les clichés, à faire des phrases qui veulent rien dire, en faisant c'est parfois très concret. Le maître, il doit cerner les élèves. Il doit dire qui a comment, quelles difficultés il a. Et très vite, ça se voit, certaines difficultés, certaines propensions psychologiques, ça se voit assez vite, en fait, qu'on a l'habitude. Quand on commence à avoir une certaine habitude, ça se voit dans le corps, ça se voit dans la réaction, ça se voit dans les échanges, par exemple, même qu'on fait des exercices, on va dire, codés, où on dit bah, je fais une attaque, je fais tel blocage, etc. Ce genre de choses se perçoivent dans la façon que c'est exprimé. En fait, on peut pas trop mentir. On peut pas, voilà, il y a une vérité comme ça qui éclate. Du coup, ça me fait penser que là, ça fait 10 minutes que je vous parle de ça, alors que je pensais que ça allait être court. Au fait que le parallèle avec la psychanalyse, et notamment sur un registre que je dis d'une expérience de vérité. Faut bien s'entendre, vérité, c'est pas la vérité ultime ou la vérité qu'on vous dit pas, mais que tel article putaclic, enfin vous révélez, on vous doit la vérité. Et là, c'est la vérité à la Lacan, ouais, pourquoi pas, à la Lacan, qui est une sorte de, lui, il parle d'un me-dire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas toute, c'est quelque chose qui est dans une sorte d'impartialité auquel on n'accède pas comme ça, en fait. Alors c'est une vérité de l'être, hein, évidemment, c'est pas la vérité sur qui a pris la sœur de Fox Mulder. C'est une vérité de l'être, de soi, qui peut se révéler aussi bien dans les arts martiaux que dans une séance de psychanalyse, ou des séances de psychanalyse plutôt, mais elles se font pas sur le même plan. Et donc ça va être dans le segment d'après. Donc voilà, je vais essayer de faire plus court là, parce que je pense que j'ai déjà donné la plupart des éléments qui permettront de comprendre ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est plutôt une sorte voilà, de conclusion. Oui, alors, enfin, moi, quand j'ai commencé à pas mal pratiquer donc les arts martiaux, il y a des choses de me retrouver un peu comme ça, mis en échec dans des choses que j'arrivais pas à faire malgré des entraînements, enfin m'entraîner, quelque chose de moi que j'arrivais pas à résoudre et qui était lié à des choses que j'avais abordées en analyse, c'est-à-dire sur le plan pas intellectuel, parce que ce n'est pas qu'intellectuel, puisque ça se met en acte, mais qui s'était voilà, qui s'était inscrit peut-être dans mes comportements et attitudes, peut-être dans ma vie sociale, mais il manquait une inscription, c'était celle du corps. Et il y avait un décalage entre ce que j'avais pu résoudre, entre guillemets, en analyse, et ce truc qui était lié, mais pas au niveau du corps. Et qu'on réalise ça, on se rend compte que y a presque quelque chose à compléter dans la psychanalyse. Donc c'était très prétentieux de dire ça, et parce que je dis que finalement moi je dis que la psychanalyse c'est pas suffisant, mais faut bien entendre que il y a quelque chose comme ça qui échappe à tout, et peut-être les arts martiaux, il y a une partie des choses qu'on résout dans les arts martiaux par le corps et qu'on ne résout pas finalement on va dire dans sa vie ou psychiquement enfin même si psychique et corps c'est je pense que c'est uni mais voilà qui s'inscrit pas forcément dans la vie sociale etc. Alors exemple c'est souvent on voit des gens qui sont dans la vie ultra timide genre qui se laissent un peu faire et qui sont des warriors sur un ring quoi genre il y a un gap comme ça, il y a un truc, un presque. Alors c'est rigolo parce que souvent, voilà, on dit ça, ah bah tiens, c'est comme si tu basculais, quoi. Une idée comme ça de basculement. Alors c'est la même personne, elle est pas clivée forcément, mais elle arrive à faire quelque chose par le corps parce que c'est aussi dans un espace protégé, c'est presque c'est pas une scène, mais c'est dans le dojo, c'est dans le ring, c'est dans l'entraînement. Donc du coup quelque chose peut s'exprimer, c'est un espace, c'est tout un dispositif, un espace qui autorise que des choses se révèlent, comme la psychanalyse par la confidentialité, par le fait qu'on va voir cet autre analyste qui semble comme ça avoir un savoir, qui peut comprendre quelque chose et peut-être enfin quelqu'un comprend ce non-sens voilà, de mon être et qui peut comme ça en tirer un sens. Donc il y a le divan fauteuil, il y a tout un tas de choses qui sécurisent la parole. Qui a un espace différent qui fait que voilà c'est ça crée une sorte de voilà d'instrument de vérité il y a comme ça une logique qui fait que bon qui est volontaire dans la psychanalyse dans les arts martiaux oui parce que il y a quelque chose de soi à trouver forcément et là j'en viens à ce qu'on appelle alors c'est pas forcément l'objet de la psychanalyse mais dans les arts martiaux et du zen, c'est le rapport à l'ego. Alors l'ego, autant dans nos ambitions, dans le fait qu'on se trouve supérieur, le fait qu'on se trouve inférieur, voilà toutes les choses autour de ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire je suis comme ci, je suis comme ça, je saurais pas faire, je saurais faire, mais c'est moi le plus fort. Ah non, je suis une fin. Voilà, c'est tout cet ensemble de choses comme ça dans les arts martiaux, c'est quelque chose à combattre et il faut être capable d'abandonner ça d'une certaine manière pour que l'esprit soit ôté de ces parasitages, on va dire. Il y a vraiment un parasitage qui fait que l'esprit est suffisamment hors vide, on peut dire pur hein, si on veut, pour que bah là j'attaque, hop là je bloque, il y a un truc comme ça. Alors les gens qui regardent Dragon Ball Super, c'est un peu l'idée de l'ultra instinct, où le corps bouge tout seul sans qu'il y ait de. En fait, ce serait pas le corps qui. C'est le corps qui bouge tout seul, mais en tant que l'esprit et le corps font un, et l'esprit parasite pas le corps. Et en psychanalyse, il y a ces idées où on déconstruit, on remet en question les choses qu'on pense de soi, d'où ils viennent, pourquoi je me trouve ainsi, est-ce une défense, est-ce quelque chose qu'on m'a inculqué, auquel j'ai souscrit par une croyance comme ça, un peu inconsciente. Et finalement, on trouve quelque chose de soi et qui est différent de l'ensemble de ces agrégats, on va dire imaginaires, ou qu'on peut appeler ego si on veut, et qui permet voilà d'accomplir et de réaliser quelque chose. Et c'est la même chose dans les arts martiaux, mais du point de vue du corps. Enfin, vraiment du corps. Hein. Donc, ça veut dire que ce serait. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime dire, même, mais je le dis un peu en rigolant, qu'en fait, il faudrait que, par exemple, les psychanalystes, les gens qui vont devenir praticiens pour avoir pratiqué sur eux, pour avoir été patients d'abord, devraient aussi faire des arts martiaux pour un peu compléter ça. Alors c'est peut-être paradoxal de dire l'idée de compléter alors que je parle de non-agir, d'accepter le manque, mais c'est plutôt l'idée de quelque chose un peu complémentaire dont le but est d'accepter un certain non, un certain manque, une certaine vacuité, voilà le fait que les choses sont pas permanentes, que les choses sont pas fixes, et ça, bon, on les trouve dans les deux. Donc voilà, bah, je finis ce premier épisode, donc j'espère que ce sera pas trop nul, enfin pas trop long. Et que la qualité sonore sera au rendez-vous. Bye.